Alors, avec beaucoup d'intérêt, nous revenons depuis ce matin à plusieurs reprises sur la question complexe d'essayer de comprendre besoins et droits de l'enfant. Dans cet esprit, nous avons la chance d'accueillir maintenant Madame Lequeux, qui est juriste experte, coordonnatrice du pôle défense des droits de l'enfant auprès du défenseur des droits. Et c'est à ce titre qu'elle vient partager avec nous ce que cette expérience lui permet de comprendre par rapport à l'importance du recueil de la parole de l'enfant. Merci, Madame.
Merci à vous. Merci de m'avoir invitée. Je suis très honorée d'être là pour participer à vos réflexions. Petit aparté, j'ai été traînée sur les vidéos de Papoteau et c'est vachement bien. Voilà. Après la sociologie, après la psychologie, après l'éducatif, le droit. Je remarque que vous l'avez gardé pour la fin, je ne sais pas.
Oui.
Mais en tout cas, ça nous permet de revenir aussi aux fondamentaux, c'est-à-dire les droits de l'enfant, puisque les enfants ont des droits. Je pense que maintenant, vous le savez. Vous m'avez proposé d'intervenir sur l'importance de la parole de l'enfant. Pour le défenseur des droits, le recueil de la parole de l'enfant n'est pas seulement important, c'est surtout une obligation légale. Comme vous le savez, le défenseur des droits a été créé par une loi organique. Je ne sais pas si tout le monde connaît l'institution. En tout cas, le défenseur des droits a pour principale mission de défendre et de promouvoir l'intérêt supérieur de l'enfant et les droits de l'enfant consacrés par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié et approuvé par la France, c'est-à-dire en l'occurrence la Convention internationale des droits de l'enfant. Au sein du défenseur des droits, on est à peu près 250 agents au siège à Paris, et puis à peu près 500 délégués qui sont répartis sur tout le territoire, qui sont des personnes bénévoles, qui peuvent du coup rencontrer les familles et éventuellement les professionnels qui peuvent faire appel à eux. Au sein du défenseur des droits, au sein du siège, on est un pôle, le pôle défense des droits de l'enfant, qui est en charge plus spécifiquement de cette thématique. Nous sommes 10 juristes en charge de traiter des réclamations qui nous arrivent par les familles, les professionnels, les avocats, les associations, mais également par les enfants, puisque nous avons mis en place un formulaire qui leur est spécifiquement réservé. On traite environ 1 000 à 1 500 réclamations par an au pôle défense des droits de l'enfant, ce qui est plutôt pas mal. La majorité de ces réclamations, à peu près 35%, concernent directement la protection de l'enfance. Pour nous, juristes, la colonne vertébrale, la ligne de conduite, c'est la Convention internationale des droits de l'enfant. Lorsque je vous dis que c'est une obligation légale recueillir la parole de l'enfant, c'est parce qu'elle est prévue, cette obligation, par la Convention internationale des droits de l'enfant. C'est l'article 12 de la Convention qui l'explique. Vous connaissez tous, je pense, l'article 3.1 de la Convention, l'intérêt supérieur de l'enfant, qui doit être une condition primordiale, une considération primordiale dans toutes les décisions qui concernent les enfants. On connaît moins bien l'article 12 de la Convention, qui est pourtant tout aussi important, parce qu'il est, comme l'article 3.1, l'un des quatre piliers de la Convention, qui irradie l'ensemble des autres droits des enfants. Les deux autres piliers, en plus de l'article 3.1, c'est-à-dire l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est le droit à la non-discrimination et c'est le droit à la vie et au développement. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, cet article 12 ? Il nous dit « Les états parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en compte, en considération, eu égard à son âge et à son degré de maturité. À cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative, l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'une organisation appropriée, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale. Alors, c'est un peu compliqué. Je vous propose, si vous le voulez bien, une toute petite étude de texte. Les États parties garantissent. Ce droit impose une obligation stricte aux États parties qui sont tenus d'appliquer activement le droit de l'enfant d'exprimer librement ses opinions et d'accorder le poids voulu à ses opinions. Capable de discernement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et contrairement à une lecture restrictive de ce capable de discernement, en fait, la Convention, elle utilise cette expression en la faisant reposer sur une présomption de discernement. C'est-à-dire que pour le Comité des droits de l'enfant et pour la Convention, tous les enfants sont capables de discernement, tous les enfants sont en capacité de s'exprimer, tous les enfants doivent par conséquent être entendus d'une manière appropriée à leur âge et à leur degré de discernement. La Convention ne pose pas de limite d'âge pour l'exercice de ce droit. L'évaluation de la capacité de discernement oblige les États parties, mais aussi tous les intervenants auprès des enfants, à évaluer leur capacité de discernement de manière individualisée. Le droit d'exprimer librement son opinion. Le terme « librement », vous vous en doutez, inclut que le droit n'impose pas à l'enfant une obligation d'exprimer son opinion. On ne va pas l'attacher et lui dire « dis-moi ce que tu en penses ». Mais il lui accorde le droit de choisir d'exprimer son opinion. Il faut lui donner le choix. Il faut le mettre en position de pouvoir exprimer ce choix. Ce principe exige des mesures proactives de la part des États parties pour fournir à l'enfant les conditions adaptées à son âge et sans danger, pour lui permettre d'exprimer ses opinions en tenant compte de son origine individuelle, sociale, culturelle. On a pu le voir, ça impacte aussi beaucoup la capacité des enfants à pouvoir exprimer leur opinion. Et des conditions sans danger, adaptées à l'âge de l'enfant, comprennent également la possibilité d'exprimer ses opinions par des moyens alternatifs et spécifiques adaptés aux âges des enfants. Et pas juste entendre ce qu'ils ont à dire, mais c'est aussi leur donner la possibilité de s'exprimer à travers des dessins, à travers de l'art-thérapie, etc. Sur toute question intéressant, la Convention a décidé d'élargir au maximum le champ d'application de l'article 12. Elle irradie certes tous les droits qui figurent au sein de la Convention, mais elle élargit encore plus l'application de cet article. Cette interprétation large, elle vise à inclure les enfants dans les procédures sociales, judiciaires et administratives, les décisions, les actions et les omissions, afin d'améliorer la qualité des solutions qu'on pourrait apporter aux enfants. Étant dûment prise en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. Cet élément garantit qu'un enfant a non seulement la possibilité d'exprimer ses opinions et d'être entendu, mais que cette opinion qui est exprimée doit être également sérieusement prise en considération. Il ne suffit pas d'écouter l'enfant. Cette parole, il faut en faire quelque chose. Ça nécessite une évaluation, au cas par cas, de la maturité de l'enfant. Contrairement à l'âge de l'enfant, qui n'est pas un critère, la capacité, elle est, elle, influencée par l'expérience de vie de cet enfant, son niveau d'éducation, son intelligence, l'empathie et les informations dont il dispose. Selon le comité, plus la question a des incidences importantes sur la vie de l'enfant, plus il est primordial d'évaluer précisément le degré de maturité de l'enfant. Donc, comme on le voit, cet article engage les États à permettre le recueil de la parole de l'enfant. D'autant plus qu'il a été reconnu d'effet direct par la Cour de cassation et le Conseil d'État. Je vous parle de droit, effectivement. Ça veut dire que cet article peut être directement invoqué devant les juridictions. Alors, qu'est-ce qu'il en est en droit français ? Ça va peut-être plus nous parler. Donc, simplement vous rappeler que l'article 371.1 du Code civil, qui définit l'autorité parentale, indique que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Ce qui va nous concerner plus spécifiquement en protection de l'enfance, c'est l'article L112-3 du CASF, Code de l'action sociale et des familles, qui indique « La protection de l'enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l'enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social, et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation dans le respect de ses droits ». Le respect de ses droits, ça veut dire le respect de l'article 12 de la Convention. Donc l'ensemble du dispositif de protection de l'enfance doit être mené, conduit, pensé, structuré dans le respect des droits de l'enfant, donc dans le respect de son droit à être entendu et de voir son opinion dûment prise en compte. Enfin, je citerai l'article L223-1-1, alinéa 5, c'est compliqué, sur le PPE, projet pour l'enfant, que tout le monde doit connaître, mais qui, malheureusement, peine encore à être systématiquement élaboré. Je pense que je ne vous apprends rien. Qu'est-ce qu'il dit, cet article ? Le président du conseil départemental est le garant du projet pour l'enfant, qu'il établit en concertation avec les titulaires de l'autorité parentale et, le cas échéant, avec la personne désignée en tant que tiers digne de confiance, ainsi qu'avec toute personne physique ou morale, donc avec vous tous, qui s'implique auprès du mineur. Ce dernier est associé à l'établissement du projet pour l'enfant selon des modalités adaptées à son âge et à sa maturité. Le projet pour l'enfant est remis aux mineurs. Est-ce que vous avez vu beaucoup de projets pour l'enfant remis aux mineurs ? D'accord. Ça confirme un petit peu ce qu'on pressentait au sein du défenseur des droits. C'est donc une obligation légale. Ce n'est pas juste important, c'est une obligation. Le recueil de la parole de l'enfant ne doit pas se limiter à prêter l'oreille aux enfants quelques minutes. On doit en faire quelque chose de cette parole. La parole des enfants, elle nous engage. Il faut faire vivre ce droit, et faire vivre ce droit est de la responsabilité des professionnels que nous sommes, tous, à chacun de nos niveaux. Cela suppose d'abord d'informer les enfants, de manière adaptée à leur âge et à leur niveau de développement, et ensuite de prévoir et de garantir le recueil de sa parole par des procédures qui font référence pour les professionnels, pour lui expliquer si et comment son avis est pris en compte, s'il ne l'est pas, pourquoi, et s'il l'est, totalement ou partiellement, lui expliquer ce qu'il en est. Alors nous, pour faire vivre ce droit au niveau du défenseur des droits, on s'est engagé à organiser chaque année une consultation des enfants. Un panel d'environ 2000 à 2500 enfants sont consultés chaque année dans le cadre de la rédaction de notre rapport annuel enfant, via des associations et notamment le secteur associatif Habilité en protection de l'enfance. On a rédigé également un ouvrage qui s'intitule « J'ai des droits, entends-moi », qui sont des verbatims d'enfants, à la suite de notre première consultation en 2019. On a élaboré un rapport annuel sur la parole de l'enfant, prendre en compte la parole des enfants, un droit pour l'enfant, un devoir pour l'adulte. Et tous ces travaux sont accessibles de manière tout à fait libre et gratuite sur le site du Défenseur des droits. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent, les enfants, sur leur droit à être entendus en protection de l'enfance ? J'ai pris quelques petits verbatims parce que rien de mieux que leur parole pour nous dire à quel point, justement, leur parole n'est encore que trop peu prise en compte. Nous ne sommes pas assez écoutés sur des sujets qui concernent notre propre vie. Pour aider les enfants, il faut savoir ce qu'ils veulent. Il faut les comprendre aussi. Il faut que les adultes nous fassent plus confiance et nous respectent. Nous aimerions que nos voix portent autant que celles des adultes, car il y a bien trop d'injustices et d'abus de pouvoir au sein des institutions. Nous proposons une plus grande ouverture d'esprit de la part des adultes pour accepter les jeunes. Nous aimerions avoir des entretiens pour expliquer ce que nous vivons réellement au quotidien. Nous nous disons que ça ne sert à rien de dire ce que l'on pense, que cela ne changera rien. Notre parole ne sert à rien. Nous n'aurons jamais raison, parce que nous sommes des enfants. La parole d'un adulte aura plus de valeur. Nous ne comprenons pas ce que dit le juge, et même nos parents ne comprennent pas tout. Quand l'éducateur dit « Tu as compris ?», on répond « Oui, oui, mais ce n'est pas vrai. » Des fois, nous sommes énervés. Le juge ne prend pas le temps d'expliquer, d'être sûr que tout le monde a compris sa décision. Alors, quand on écoute ces verbatims, on ne peut que se dire qu'on est assez loin du compte de l'application de l'article 12, conforme à la Convention et conforme à ce qu'en explique le Comité des droits de l'enfant. Nous portons une lourde responsabilité dans le fait, pour ces enfants, de ne pas se sentir importants, de ne pas se sentir respectés, de ne pas se sentir écoutés. Écouter les enfants nous permet de mieux comprendre leurs besoins, leurs préoccupations, et nous conduira à des décisions plus éclairées, plus adaptées. C'est aussi renforcer leur autonomie, encourager les enfants à s'exprimer, favorise leur confiance en eux et leur développement personnel. Elle leur apprend à défendre leurs intérêts. C'est également favoriser une meilleure prévention de la violence. Un environnement où la parole des enfants est valorisée aide à détecter et prévenir les situations d'abus ou de négligence. La parole des enfants, elle nous engage de plusieurs manières. Au-delà de notre responsabilité légale à appliquer un droit, elle nous engage sur le plan éthique. Écouter la parole des enfants engage les adultes à respecter leur dignité et leur autonomie, à agir dans leur intérêt supérieur. Elle engage nos décisions. Lorsqu'on recueille la parole d'un enfant, cela impose une obligation de rendre compte des décisions prises et de leur impact sur cet enfant. Elle nous engage au niveau de la formation des professionnels, mais également au niveau de la construction de nos institutions, qui doivent mettre en place des mécanismes pour évaluer l'impact de leurs décisions sur les enfants, ce qui requiert une attention continue à leurs besoins et à leurs préoccupations. À votre niveau, à vous, délégué aux prestations familiales, en quoi le recueil de la parole des enfants en cours des mesures judiciaires d'aide à la gestion du budget familial pourrait être important ? Je vous fais part de quelques pistes de réflexion. D'abord, l'évaluation des besoins. La parole des enfants peut aider à mieux comprendre leurs besoins en éducation, en santé, en loisirs, et pourrait donc influencer la répartition et l'utilisation des ressources par la famille. Impliquer les enfants dans le processus décisionnel concernant les finances familiales pourrait également leur donner un sentiment d'autonomie et de responsabilité. Les décisions financières peuvent affecter le bien-être émotionnel des enfants. Écouter leurs ressentis pourrait permettre d'évaluer l'impact potentiel des décisions prises. Leur permettre de participer aux discussions sur le budget pour les plus grands pourrait leur permettre de comprendre et d'apprendre des notions essentielles de gestion financière et mieux les préparer pour l'avenir. Mais c'est aussi montrer aux parents, par l'exemple, que la parole de leur enfant compte et en ça... faire un petit rappel sur l'article 371 du Code civil. À eux aussi également de prendre en compte la parole de leur enfant dans leur quotidien. En intégrant la parole des enfants dans ces processus, on favorise une approche plus équilibrée et respectueuse des droits des enfants, contribuant ainsi à leur bien-être global et à la dynamique familiale. Et lorsque l'enfant est confié en dehors du domicile familial, c'est également lui montrer qu'il y a des personnes qui se soucient de ces parents et sont présents pour mieux les accompagner dans leurs difficultés financières au quotidien. Car pour beaucoup d'entre eux, lorsqu'ils sont amenés à être séparés de leurs parents, l'inquiétude à l'égard de ces derniers, elle demeure. Dans son rapport de 2020, le Défenseur des droits a émis des nombreuses recommandations sur la prise en compte de la parole de l'enfant. Il recommande dans toutes les institutions qui accueillent ou qui travaillent auprès des enfants de se constituer d'outils pour pouvoir recueillir la parole des enfants, mais aussi pour évaluer la manière dont on recueille la parole de ces enfants. Elle recommande aussi de mettre en place des projets de participation, des espaces dédiés, ainsi que des dispositifs pour recueillir la parole des enfants qui doivent être valorisés et intégrés dans les projets associatifs. Pour finir, pour conclure, je dirais que nous portons une lourde responsabilité collective qui nous engage à faire vivre ce droit au quotidien, à expliquer, à informer les enfants sur celui-ci, à leur montrer que leur parole compte, qu'elle est importante, qu'elle nous est utile. Et c'est peut-être parce qu'elle nous engage tant que nous, les adultes, avons si peur de recueillir la parole des enfants. Je vous remercie. Si vous avez des questions sur notre activité, des questions sur tout ce que vous voulez. Ça, c'est l'avantage du droit. C'est qu'on ne se pose pas de questions une fois qu'on a compris qu'il faut l'appliquer. Donc on n'est plus dans est-ce que c'est important, est-ce que ce n'est pas important. Le postulat de départ, c'est que c'est une obligation. Et cette obligation, va bien falloir la respecter à un moment ou à un autre de manière plus adéquate. Je ne sais pas si vous maîtrisez les outils du Comité des droits de l'enfant. Le Comité des droits de l'enfant a fait une observation générale sur cet article 12, qui est l'observation générale numéro 12. C'est pratique pour s'en souvenir. Qui détaille comment recueillir la parole des enfants à tous les stades, qui explique cet article en protection de l'enfance, dans l'école. C'est un outil qui est assez précieux pour justement faire vivre ce droit qui est compliqué pour nous les adultes parce qu'on n'en a pas l'habitude. Ça existe depuis 89 quand même, la convention. Donc ça fait quand même un moment normalement qu'on aurait dû s'aligner. Mais le fait de le prendre comme un postulat de départ, ça évite de louvoyer et de se poser trop de questions. Après, il faut le mettre en œuvre. Il faut trouver les bons outils. Et ça, c'est, je l'admets, plus compliqué. Et puis, il faut trouver le temps. Je sais que dans vos mesures, c'est pas évident. Le temps éducatif, le temps au service de la parole de l'enfant est pas simple non plus à trouver. Pour répondre à votre question, l'obligation de la Convention s'adresse au premier chef aux États parties, c'est-à-dire à nos politiques, qui se sont fait sérieusement taper sur les doigts en juin 2023 par le Comité, lorsqu'il a rendu ses recommandations après avoir auditionné la France. Les recommandations sont publiques d'ailleurs, et sur la protection de l'enfance, sur l'article 12, sur les moyens sur la pauvreté. L'État français s'est fait sérieusement taper sur les doigts avec une série de recommandations qui s'adressent au pouvoir public et non pas aux travailleurs sociaux qui sont les mains dans le cambouis à la manœuvre.
Excusez-moi, mais ça change quoi les recommandations ? Excusez-moi, je suis là. Ça change quoi le fait qu'on ait des recommandations, qu'on se fasse taper sur les doigts ? Parce que quand même, là, aujourd'hui, je vais faire une petite incise, mais on a un ministère de la famille et de la petite enfance. Aujourd'hui, nous évoquons le recueil de la parole de l'enfant. Et je me dis peut-être que la protection de l'enfance, elle est au même niveau que l'enfant. C'est-à-dire qu'on a beau parler, éructer, bouger, s'énerver, etc., on a l'impression quand même que notre parole, elle n'est pas prise en compte non plus. Alors nous demander, moi je veux bien prendre, l'année dernière on a fait le forum sur le pouvoir d'agir des familles. Une de mes grandes questions, c'était est-ce que la co-construction, la co-gestion, tout ce que vous voulez, c'était pas un peu de la poudre aux yeux? Eh ben aujourd'hui, je me demande si la parole, recueillir la parole de l'enfant, dans tout ça, c'est merveilleux. Moi, j'adore. Hein. Enfin, je veux dire, je trouve, j'applaudis des deux mains. Cependant, on n'a pas les moyens. La protection de l'enfance est au bord. Je sais même pas du gouffre. À mon sens, elle est dans le gouffre. On a financièrement, je veux dire, c'est une cata. Même si tout a augmenté, les budgets ont augmenté, tout ce que vous voulez. En attendant, il n'y a pas de moyens. Il n'y a pas de pensée. Surtout pour moi, il n'y a pas de pensée. Et on a un ministère de la famille et de la petite enfance. Et Monsieur Barnier a parlé particulièrement que de délinquance. Alors, moi, je veux bien, mais au milieu de tout ça, est-ce que nous, la protection de l'enfance, on n'est pas au même niveau que les enfants ? Enfant voulant dire infant, celui qui ne parle pas.
Deuxième coup de gueule. Là, j'ai droit qu'au coup de gueule, moi.
C'est l'heure.
C'est les coups de gueule de fin de journée. Merci. Que vous dire ? J'admets que le contexte politique n'est pas extrêmement favorable. Maintenant, c'est pas parce que personne n'entend qu'il faut s'arrêter de crier.
Absolument.
Voilà. C'est... Quand je dis que la parole des enfants nous engage, c'est ça aussi. C'est qu'il ne suffit pas de prêter l'oreille, de dire comment tu vas et de ne rien en faire derrière. On doit leur montrer que leur parole compte. Ça veut dire effectivement modifier nos façons de travailler et créer des espaces qui leur permettent d'apporter cette parole et à nous qui nous permettra ensuite d'en faire quelque chose. Alors, j'ai inclus les mineurs non accompagnés qui font à peu près 5 à 10% de nos réclamations. Donc tout l'accès à la protection de l'enfance des mineurs non accompagnés et la qualité de la prise en charge et l'accès à l'autonomie et le contrat jeune majeur. Alors on peut être saisi par les parents, par l'enfant lui-même. Je l'ai dit tout à l'heure, on a un formulaire spécial qui permet aux enfants de nous saisir. Par les avocats, par les travailleurs sociaux et par le personnel de santé. On est beaucoup saisis par les parents, parents qui ne comprennent pas les mesures de protection de l'enfance qui ont été décidées, qui les contestent. Donc s'agissant des mesures judiciaires, le défenseur des droits n'a pas la possibilité de remettre en cause les décisions de justice. Hein, ça, c'est, on est très clair avec les parents. Dès lors qu'il y a une mesure de placement, une mesure d'AEMO, le défenseur des droits n'a pas la possibilité de contester les décisions de justice. Donc on rappelle les voies de recours et on essaye de remettre les parents en capacité d'exercer leurs droits. On est beaucoup saisi aussi par des travailleurs sociaux. Un petit peu au bout de la roulette, je dois dire. Et donc on peut être amené à instruire sur l'ensemble d'un dispositif de protection de l'enfance départemental. Actuellement, on mène des instructions sur 10 départements pour lesquels le dispositif de protection de l'enfance est au fond du gouffre, là pour le coup, hein, pour toujours en lien avec les droits de l'enfant. Puisque nous, notre prisme, c'est ni la santé des travailleurs sociaux, ni le droit des parents. C'est vraiment au prisme des droits de l'enfant, où on va analyser le dispositif et analyser en quoi le dispositif porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant et à leurs droits, et faire un certain nombre de recommandations d'amélioration du dispositif. Et puis, on est saisi par quelques enfants aussi qui sont confiés. Alors, soit qu'ils dénoncent leurs conditions de placement, puisqu'on a quand même un certain nombre d'instructions sur des établissements qui dysfonctionnent. Et puis, des enfants qui ne comprennent pas les mesures, à qui on va réexpliquer aussi, ou on va rentrer en relation avec le travailleur social et puis lui dire qu'on a été saisi, que l'enfant va nécessiter justement qu'il soit reçu, qu'on puisse lui réexpliquer les choses de manière plus approfondie pour qu'il puisse comprendre à minima les mesures qu'il concerne. Voilà à peu près les grands, les grands axes de saisine qu'on peut avoir en protection de l'enfance. Non, mais je vais vous répondre. On a de très bons rapports avec les magistrats. Enfin, ça dépend lesquels. Sur la mesure en elle-même, la MJ-AGBF, rien que le fait de dire l'acronyme sans se tromper, c'est une performance, je trouve. Le défenseur des droits aime beaucoup la MJ-AGBF. Et nous aussi, dans nos instructions, on s'est rendu compte que c'était une mesure très, très méconnue et très sous-utilisée. Donc je pense qu'il y a un vrai problème de formation des travailleurs sociaux sur comment, quand, pourquoi préconiser une MJ-AGBF auprès du magistrat. Il y a un problème de formation des magistrats. Vous savez que c'est une formation qui est très généraliste. Les juges des enfants ont des formations continues qui sont plus centrées sur leur métier juge des enfants. Mais c'est vrai qu'au départ, les jeunes magistrats ne sont pas forcément au courant de toutes les mesures qui peuvent exister. Ou alors sont restés ont loupé une réforme. Parce que y en a beaucoup aussi des réformes et il faut suivre. Et la dernière, par exemple... vous savez, avant, la MJ-AGBF, elle devait venir lorsqu'une mesure administrative avait échoué, etc. Bon. Maintenant, ça a été assoupli et les magistrats peuvent prononcer plus de MJ-AGBF. Je ne suis pas certaine que dans tous les cabinets de juges des enfants, on soit déjà au fait de ce changement. Mais ça reste une mesure qui devrait être préconisée beaucoup plus... dès lors qu'on judiciarise... et que c'est une mesure qui peut être utile à la famille, elle devrait, même au niveau de l'évaluation d'IP, elle devrait déjà être dans la tête des évaluateurs pour être préconisée au moment de la remise du rapport d'information préoccupante. Donc nous aussi, on s'est aperçu d'énormes disparités d'un département à l'autre, mais aussi de secteurs départementaux à l'intérieur d'un même département à l'autre. Ce qui pose quand même de réelles questions, notamment sur l'égalité sur les territoires en protection de l'enfance. Je poserai la question demain au magistrat. Ben, vous avez raison, les recommandations du défenseur des droits n'ont pas de pouvoir de... On n'a pas de pouvoir de contrainte. Mais on a un pouvoir de name and shame, comme on dit. Nommer la honte. Lorsque le défenseur des droits fait une décision avec des recommandations, il donne aux mises en cause un délai pour répondre sur l'application de ces recommandations. Si le mis en cause répond de manière insatisfaisante, le défenseur des droits a la possibilité de faire paraître sa décision non anonymisée au journal officiel. C'est la seule manière qu'on a de tenter de contraindre les mises en cause à appliquer les recommandations du défenseur. Mais effectivement, comme les décisions du comité des droits de l'enfant et les recommandations du comité, ça n'a pas un pouvoir contraignant. Le seul pouvoir contraignant, c'est effectivement de mettre les familles en mesure d'attaquer le département ou l'État en responsabilité. Et il y en a qui commencent à le faire, il y a des avocats qui commencent à s'emparer de cette possibilité pour attaquer en responsabilité le département et l'État. Et quand vous disiez que effectivement le département est chef de file de la protection de l'enfance, mais le département n'est pas seul dans la protection des enfants. Lorsque le défenseur des droits instruit un dispositif de protection de l'enfance, il va instruire auprès du département, mais il va instruire aussi auprès du préfet et auprès de l'ARS. Parce qu'on sait que, aux côtés des départements, devrait y avoir tout le médico-social, la préfecture également pour le soutien de l'État au département. Et donc, notre objectif, c'est aussi de remettre tous les partenaires en responsabilité dans la protection de l'enfance. Pas juste... accuser le département de faillir à sa mission.
c'est le département, mais c'est aussi l'ARS, c'est aussi le préfet, c'est aussi l'éducation nationale. Et c'est tout le monde ensemble qui feront potentiellement avancer les choses. Alors, sur les délais, j'avoue qu'on est responsable au premier chef, le défenseur des droits. Quand vous dites renforcer les moyens, oui, ce serait un moyen de réduire nos délais d'instruction. Mais vous imaginez bien qu'instruire sur 10 départements tout un dispositif avec 2 juristes en charge de la protection de l'enfance au sein du pôle, forcément, ça nous prend du temps d'éplucher 1600 pages de réponses, en plus de nos autres situations dont l'urgence diffère selon les thématiques. Nous donner plus de moyens, c'est ce qu'on réclame tous les ans dans les négociations budgétaires. Je ne sais pas si la commission, on sera très probablement auditionné par la commission d'enquête. On pourra faire part de nos difficultés, et je pense qu'on le fera. Je pense que la défenseure est la première à porter cette parole d'augmenter les moyens du défenseur des droits. Sur le pouvoir de contrainte, effectivement, il faudrait une modification de la loi organique. Je ne suis pas sûre que les parlementaires, dont un certain nombre, sont quand même présidents de département, nous donne un pouvoir de contrainte, malheureusement. Après, nos décisions, elles sont publiées et elles le seront probablement fin janvier. Les travailleurs sociaux peuvent s'en emparer également. Et nous, on veut les faire vivre, justement. On veut que les travailleurs sociaux, on veut que le secteur associatif habilité s'en empare pour dans leurs négociations avec les départements, etc. Mais malheureusement, je sais que nous produisons de la frustration. Ça, c'est effectivement une donnée que nous avons en tête, malheureusement. Oui, effectivement, sur la deuxième partie de votre question, je pense que chaque magistrat a aussi sa pratique, et ça, on ne pourra jamais l'harmoniser complètement. Mais pour moi, c'est pas antinomique les deux mesures et la façon d'entendre les enfants par l'AEMO, mais aussi par la MJAGBF. On n'est pas sur des affrontements, on est sur comment on peut se compléter, vous, éducateurs de milieu ouvert, nous, travailleurs sociaux de MJAGBF, comment on se complète l'un l'autre. Comment on travaille tous ensemble et non pas en silo, comme on a l'habitude de le faire en France de manière récurrente.
Merci. Mais ça veut dire que sans doute il faudra que vous reveniez nous voir l'année prochaine.
Quand vous voulez.
Merci beaucoup. Merci.